France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Notre série de cette semaine porte sur les courants libertins. Dans la culture libertine ont baigné des personnages que nous n'avons pas toujours l'habitude d'envisager sous cet angle. Saviez-vous que La Fontaine était libertin ? Nous verrons dans quelle mesure. Voici une manière de lui faire un clin d'œil pour le 330e anniversaire de sa mort cette année. Jean de La Fontaine, né en 1621, était plus jeune d'environ 30 ans que les figures de libertins érudits de la première moitié du XVIIe siècle évoquées dans l'épisode d'hier. Mais sa fibre libertine est assez nette et nous allons en parler dans cette émission. Nous n'aborderons pas seulement ses contes érotiques ou grivois, écrits entre 1665 et 1674, qui ont choqué Boileau, mais bel et bien les fables de La Fontaine, dont certaines constituent désormais une véritable culture officielle en France et qui, sans qu'on le dise ou le sache souvent, laissent voir une indéniable sensibilité libertine. Comme nous l'avons vu hier déjà, dans le premier épisode de cette série, le libertinage est un état d'esprit qui est loin de se réduire à l'apologie de la liberté de mœurs et notamment de la liberté sexuelle. C'est notre époque qui entend le mot ainsi, pour l'essentiel, voire exclusivement. Les courants libertins des XVIIe et XVIIIe siècles ont ce visage, assurément, mais ce n'est pas le seul. On y lit un grand scepticisme à l'endroit de la religion et des dogmes les plus divers, et souvent beaucoup d'intérêt pour le matérialisme des philosophes antiques Épicure et Lucrèce. Bonjour Ambre Pérez-Parfait.
Bonjour.
Votre thèse de doctorat, qui sera bientôt publiée, portait sur Gabriel Naudet et François Lamothe-Levaillé, dont nous avons un peu parlé dans le premier épisode déjà, figure libertine. Le rapport au pouvoir politique et la position sociale des libertins vous intéresse particulièrement. Bonjour Bruno Roche.
Bonjour.
Vos recherches portent elles aussi sur les libertins du XVIIe siècle. L'enjeu du rire vous passionne. Il est au cœur d'un ouvrage que vous avez publié chez Honoré Champion, qui est décidément le grand éditeur des libertins et de leurs spécialistes. Et bonjour Jean-Charles Darmon. Alors je dois dire que c'est en vous rencontrant et en parlant avec vous que j'ai réussi à donner forme à et vie à cette série sur les courants libertins dont je rêvais depuis longtemps. Merci, vous avez beaucoup aidé l'équipe d'Avec Philosophie à préparer cette série. Et nous vous retrouverons d'ailleurs à nouveau demain dans le troisième épisode. Vous êtes professeur de littérature française à l'École normale supérieure de Paris, auteur de nombreux travaux sur les libertins, et notamment aux éditions Hermann d'une étude sur la poésie et la pensée de La Fontaine. J'ajoute qu'après la mort en 2019 du philosophe Michel Serres, qui s'intéressait beaucoup à La Fontaine, on ne le sait pas souvent, et qui a laissé des écrits sur La Fontaine, vous avez mis en forme ces pages et permis la publication posthume donc d'un livre de Michel Serres sur La Fontaine aux éditions du Pommier. Nous en parlerons. Pour commencer notre conversation, voici un très court extrait du film « Le diable par la queue » de Philippe de Broca, où l'on entend dans la bouche de Jean-Pierre Marielle une bien jolie formule.
Martial ?
Ah, quel tintouin !
Et la messe va commencer, moi je ne vois personne. Georges, avez-vous réveillé tout le monde ?
Ma mère, la clientèle n'a plus qu'une religion, la grâce matinée, elle a raison.
Oui, bah, que ça plaise ou non, quand on est sous mon toit, on va à la messe le dimanche, voilà. Sauf Monsieur Patin, naturellement. Il bouffe de la calotte. Il l'écrit, il a envie. On peut pas lui retirer le pain de la bouche. Ah !
C'est tout de même insensé de disposer de cette manière de l'âme d'autrui.
Ben c'est comme ça.
Je suis un libéral et un libertin. Le libéral tolère l'église, le libertin préfère son lit.
Son lit. Amélie, tu ne crois toujours plus en Dieu ?
Non.
Bon, alors comme d'habitude, tu gardes la maison. Allez.
Le libéral tolère l'église, le libertin préfère son lit. Ça vous va, Jean-Charles Darmon ?
Oui.
Comme définition.
Ça me va, à condition effectivement de ne pas réduire la retraite, le recul du libertin à une affaire de paresse, à un désengagement paresseux.
Le lit, c'est en vérité un effort.
Ah oui, oui, absolument. Et La Fontaine, dans les présentations de soi qu'il nous donne de lui, n'a pas honte du tout de parler de sa paresse et de son sommeil, le somme, qui pour lui est un élément très important dans la manière qu'il a de concevoir la vie, hein, de une sorte d'esthétique de l'existence, hein, où le repos et le somme ont une valeur fondamentale, ce qui n'empêche pas le mouvement, bien sûr.
Et nous verrons notamment, vous nous avez envoyé ce texte magnifique, la lettre de La Fontaine à Saint-Évremond, exilé en Angleterre, où il dit très clairement que c'est la volonté peut-être un peu immobile, mais c'est difficile à obtenir, c'est un effort, qui est, je lis, « Ô douce volupté, sans qui, dès notre enfance, le vivre et le mourir nous deviendraient égaux, aimante universelle de tous les animaux que tu sais attirer avec violence. » Par toi, tout se meut ici-bas. Il vaut mieux ce mouvement doux que l'excitation politique et sociale des êtres humains ?
Alors effectivement, la lettre à Saint-Évremond dont vous parliez est très intéressante et elle entre en résonance avec ces vers des amours de Psyché et de Cupidon. Saint-Évremond, et c'est un modèle de retrait. Il est en exil politique, à Londres. Et le vieux La Fontaine, excédé par la lourdeur Louis XIVienne, hein, de la société de cour et de tout ce qui l'entoure, rêve d'aller rejoindre, à un moment donné, Saint-Évremond et les esprits libres qui l'entourent en Angleterre. Et effectivement, Saint-Évremond, dans une lettre, lui demande quelle est sa morale, en la résumant, et La Fontaine lui répond en disant qu'il n'est pas à proprement parler un de ces libertins, disons, à caractère provocateur, tonitruant, qu'il rend à l'être suprême les hommages qu'il faut.
Oui, il est
mais une fois que ces hommages sont rendus, il fait l'éloge.
De la volupté.
De la volupté, qui est un souverain bien. Il n'est rien, dit La Fontaine, hein, qui ne me soit souverain bien.
Oui, sauf la volupté. Qui fut jadis, je cite encore, maîtresse du plus bel esprit de la Grèce. Épicure, c'est ça ?
Oui.
Il ne le dit pas, mais c'est clair.
Oui, oui. Ah bah oui, ça...
Alors, la question du retrait ou de l'engagement social, c'était quelque chose qui préoccupe beaucoup les libertins, qui les intéresse. Et vous aussi, en Pérez Parfait, ça vous a tellement intéressé que c'est véritablement au cœur de votre thèse de doctorat. Le paradoxe, si j'ai bien compris, c'est que, et nous en avons déjà parlé hier, c'est que les libertins n'étaient pas désengagés, ni n'étaient pas des marginaux sociaux. Il y a des médecins, Guy Patin, Gabriel Naudet, il y a des magistrats proches de Richelieu, comme François de la Motte-Levaillé. Quant à Naudet, on l'a dit hier, il était proche de Mazarin et son premier bibliothécaire. Donc ces gens-là, en vérité, étaient très bien dans le monde, très haut dans le monde. Expliquez-moi.
Effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a un paradoxe, une contradiction entre, d'une part, les textes des libertins, et en particulier chez La Motte-Levaillé, dans lesquels il théorise ce retrait de la vie civile, de la vie politique, des tumultes de leur siècle, de leur période.
Oui.
Et en même temps, ils sont dans ces tumultes-là. Comme vous l'avez dit, ils sont employés auprès de divers personnages importants de la monarchie de leur siècle. Je pense que une des sources antiques qui permet un petit peu de comprendre cette contradiction, c'est Sénèque, notamment. Sénèque, qui est un auteur que La Motte-Levaillé cite beaucoup.
Donc là, c'est le stoïcisme qui convoquait plus, peut-être, que l'épicurisme.
Oui, tout à fait. Mais en fait, qui vont de pair. Les libertins n'ont aucun scrupule à s'abreuver à plusieurs sources. Au contraire, ils se nourrissent de multiples sources antiques, mais pas seulement. Et effectivement, le stoïcisme et Sénèque font partie des références importantes pour les libertins.
Le retrait intérieur pour maîtriser ses affects et ses mauvais désirs, c'est ça ?
Oui, entre autres choses. Mais je pense que ce qui intéresse particulièrement chez La Motte-Levaillé, ce qui, ce qui l'intéresse chez Sénèque, c'est à la fois la thématisation du retrait philosophique, en même temps que Sénèque a lui aussi participé à la vie politique de son époque,
oui.
Et a lui aussi été précepteur d'un grand personnage de la Rome antique. De Néron, et je pense que cette proximité avec un personnage qu'on appelait, je crois déjà au XVIIe, un tyran,
oui.
A pu parler à La Motte Le Vaillé, lui qui était si proche du monarque absolu dans sa jeunesse, qui en a tenu le rôle de précepteur.
Je vous propose, puisque vous avez travaillé sur Gabriel Naudet, de l'écouter très brièvement dans un texte de 1639, où il décrit vraiment le monde comme un immense tumulte politique. Donc, il a beau savoir de près de quoi il est question, on sent que le retrait est un enjeu au moins intérieur. Écoutez.
Comme ce grand cercle de l'univers, depuis qu'il a une fois commencé son cours, n'a point cessé d'emporter et faire rouler quant et soit les monarchies, les religions, les sectes, les villes, les hommes, les bêtes, arbres, pierres, et généralement tout ce qui se trouve compris et enfermé dans cette grande machine, les cieux même ne sont pas exempts des changements ni de corruption. Il ne faut donc pas croupir en l'erreur de ces faibles esprits qui s'imaginent que Rome sera toujours le siège des saints-pères et Paris celui des rois de France.
Quand même un peu énigmatique, non ? On est dedans, dehors. Est-ce qu'il y a des vrais marginaux parmi les libertins, Ambre Pérez Parfait ?
Ah, c'est une question compliquée.
Peut-être que la réponse est non. Hein. Parce qu'il faut bien qu'ils soient protégés aussi.
Voilà, exactement.
N'est-ce pas ?
Il y a des stratégies.
Donc il vaut mieux être protégé par des forts qu'on côtoie.
Voilà, voilà. Ouais. Et c'est intéressant parce que La Motte Le Vaillé, là aussi, dans ses dialogues faits à l'imitation des anciens, qui sont assez clandestins, il dit qu'il ne veut surtout pas s'abaisser à rechercher la protection des puissants. Et pour autant, il le fait. Et les circonstances matérielles de l'époque poussent les auteurs à rechercher cette protection sans laquelle ils savent bien à quel point ils sont dénudés et quels sont les enjeux, quels sont les risques qui les menacent.
Oui.
Je crois que vous en avez pas mal parlé hier.
On recommencera parce que c'est peut-être... C'est même probablement un enjeu constant. On évoquait La Fontaine. Évidemment, on y arrive, on revient vers La Fontaine dans cette émission. Mais je voudrais qu'on fasse aussi un tour général des libertins de son temps, un peu comme hier, mais avec des angles plus précis. Je note quand même que dans la lettre de La Fontaine à Saint-Évremond que nous avons évoquée au début de cette émission, il a aussi l'art de feindre de ne pas être ce qu'il est, puisqu'il écrit « Je ne suis pas moins ennemi que vous du faux air d'esprit que prend un libertin ». Ouais, ça s'appelle une dénégation, ça. La dénégation, vous, le spécialiste Bruno Roche, spécialiste des tournures de phrases et du style des libertins, c'est une des méthodes pour se retirer tout en étant dedans. Il y a aussi le rire qui est, si j'ai bien compris, pour vous, l'enjeu fondamental du libertinage, savoir rire, et c'est une façon de se retirer.
Absolument. Le rire, c'était pas évident de le trouver chez des gens comme Gabriel Naudet ou La Motte Le Vaillé. Peut-être que lorsqu'on lit pour la première fois tel ou tel traité, on a du mal, mais finalement, lorsqu'on tombe sur des textes qui ressemblent à des éloges paradoxaux, comme par exemple le dialogue de l'âne, on rit beaucoup chez La Motte Le Vaillé, et de même, on rit évidemment chez La Fontaine, que ce soit dans ses fables ou dans ses contes. Et il me semble que ce soit chez La Motte Le Vaillé ou que ce soit chez La Fontaine, c'est un peu le même rire. C'est-à-dire qu'au départ, il y a ce rire de l'esprit fort, le rire un peu moqueur.
Oui.
Il faut donner au rire un sens, ce qui n'est pas évident, parce que le sot peut rire aussi. Hein. C'est ce qu'on dit dans la tradition chrétienne. Et malheur à vous qui riez, c'est le cri de Rancé. Donc, il faut donner un sens à ce rire, et ce rire-là, c'est celui de l'esprit fort qui ne se laisse pas prendre au piège de toutes les impostures du discours et de toutes les superstitions. Mais rire à haute voix, rire aussi fort au XVIIe siècle peut poser problème. Donc, la deuxième manière de concevoir ce rire, c'est de le transformer en ironie, en dissimulation, et peut-être laisser au lecteur, la possibilité lui-même de compléter les énoncés, d'écrire entre les lignes, avec cette fameuse figure qu'on appelle l'aposiopèse, c'est-à-dire que on mène le lecteur au seuil du libertinage, au seuil du blasphème, et à ce moment-là, on le laisse tirer les conclusions, et comme ça, on ne sera pas condamné ni par la censure, ni par les autorités du Parlement.
Alors, il y a un libertin dont nous n'avons pas encore parlé, hier non plus, à tort sans doute, parce que dans les couloirs, vous nous dites tous, vous les spécialistes du libertinage, que c'était un génie absolu. Et terriblement oublié, et je ne parle pas immédiatement de La Fontaine, mais d'un autre qui s'appelle Savinien de Cyrano de Bergerac, qui a 2 ans de plus que La Fontaine. Il est né en 1619. Il va mourir assez jeune, en 1655. Il est le vrai Cyrano historique, mais il est oublié parce qu'il est remplacé dans notre imaginaire collectif par celui d'Edmond Rostand au XIXe siècle. Il n'a rien à voir avec l'amoureux transi qu'est Cyrano de Bergerac, personnage théâtral de Rostand. Il était un vrai libertin. Il a écrit de la fiction, de la science-fiction. Il a imaginé que on puisse se retrouver sur la Lune, et depuis la Lune, la Terre serait une Lune. Il a inversé dans ses écrits des valeurs. Les vieux obéissent aux jeunes, la virginité est un scandale, le suicide est très recommandable et se fait en cérémonie, on y boit le sang du suicidé, etc. etc. Et puis il était homosexuel notoire. Alors là, j'ai d'abord une première question. Je voudrais qu'on ait un petit moment sur lui avant, parce qu'il ne faudrait pas qu'il passe à la trappe quand même, ce génie. Comment un homme si inventif, même si les choses ont été publiées plutôt après sa mort parfois, homosexuel notoire, a pu exister très simplement dans la société de son temps sans avoir qu'on lui cherche plus de noises? Jean-Charles Darmon, vous avez écrit un livre sur lui.
Oui. Alors, effectivement, il y avait... d'abord, plusieurs manières de concevoir l'amitié entre hommes. Je ne sais pas s'il se serait défini, s'il se serait donné une identité sexuelle, en quelque sorte, comme nous le ferions aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, Cyrano d'Assoucy, qu'on appelait l'empereur du burlesque, et d'autres, vous parliez de marginaux au début du... Plus tôt, il y avait eu Jean-Jacques Bouchard, qui dans ses confessions raconte toutes sortes d'expériences. Je ne pense pas que, effectivement... Alors, la question de l'homosexualité, effectivement, c'est entre... dans l'univers de Cyrano, dans toute une série de variations de points de vue. C'est plutôt comme ça qu'il faut la voir, par rapport aux normes, par rapport aux normes existantes. C'est comme ça qu'il la sollicite. Il me semble que de même qu'il va faire... le procès de l'abstinence sur la Lune, en disant que c'est un crime envers la nature.
Oui.
Il me semble que il arrive à nous faire penser que se priver de divers types de plaisirs, c'est un crime envers la nature. La nature offrant une immense gamme de possibilités que les animaux humains se sont échinés à restreindre depuis la nuit des temps. en les censurant, en s'en privant. Voilà. C'est plutôt comme ça que je vois les choses, plutôt qu'en termes d'une identité, avec une communauté. Alors, bien sûr, il y a un guet trio, comme disait Madeleine Alcover, autour de Cyrano, Chapelle, grand ami de Molière, oui. D'Assoucy, et lui, qui sont, ça a fini par une brouille terrible. Mais je ne pense pas qu'il faille se limiter à cet aspect des choses.
Alors, je précise pour les auditeurs qui viendraient d'allumer leur radio ou un autre moyen de nous écouter, que nous parlons là pendant quelques minutes du Cyrano qui s'appelait Savinien de Cyrano de Bergerac, le vrai Cyrano de Bergerac qui a vécu au XVIe siècle, qui était libertin, et pas du tout du Cyrano d'Edmond Rostand qui a complètement déformer le personnage de Cyrano. Est-ce que vous souhaitez, Bruno Roche, préciser des choses ? Si c'est un génie, comme vous le dites tous, franchement, il faut qu'on se bouge, hein, il faut qu'on le reconnaisse. Mais ces textes aussi, en même temps, si j'ai bien compris, ont eu du succès de manière posthume. C'était quand même un peu dangereux, il circulait sous le manteau de son vivant, c'est bien ça ?
Oui, les textes ont été publiés de manière posthume. En tout cas, on parle de ces deux romans, hein, Les États et Empires de la Lune, et publié après sa mort, donc en 57, il est mort en 55, et Les États et Empires du Soleil, publié en 62 par son ami Lebray. Et je voudrais revenir sur ce que disait Jean-Charles, là, sur le motif de la diversité, qui me paraît tout à fait intéressant, et diversité en matière de sexualité, bien sûr. Ce qui compte peut-être avant tout, c'est la représentation littéraire et romanesque de ce genre de sexualité, de ces genres de sexualité qui sont en général non reproductives. Et il n'y a pas que l'homosexualité. Dans les États et Empires du Soleil, le narrateur, qui s'appelle alors Dircona, qui est un anagramme de Cyrano, rencontre des arbres, les arbres de Dodone, qui vont lui raconter la fable des arbres amants. Et qu'est-ce qui se passe avec ces arbres amants? On décline toutes sortes de sexualités. L'accouplement de Pasiphae avec le grand taureau blanc de Jupiter, l'accouplement de Pygmalion avec une statue, l'accouplement de Xerxès avec un platane même, etc. Donc, cette diversité là, le message, il est à déduire, hein, bien sûr, c'est que chacun doit suivre sa nature, chacun doit suivre son bon plaisir, il n'y a pas de condamnation morale.
Un mot, ça vous intéresse aussi ? Un mot sur ce Savinien de Cyrano de Bergerac, Ambre Pérez Parfait ?
Effectivement, je pense que le thème le plus libertin, c'est, comme vous l'avez souligné à juste titre, celui de la diversité des sexualités humaines. La Motte Leveillé, encore lui, ça donne au même type de description dans les dialogues et l'imitation des anciens, se plaît aussi à narrer sur des pages et des pages les diverses pratiques sexuelles humaines et en tire les mêmes conclusions que Cyrano, à savoir que la diversité existe et qu'elle n'est pas moralement condamnable et évidemment c'est particulièrement sulfureux à une époque comme la leur de tenir ce genre de discours, une époque où plus encore qu'aujourd'hui la sexualité est extrêmement normé par la religion et il est donc plus que dangereux de faire imprimer de tels discours. Donc il faut aussi rappeler que cette description de la diversité des sexualités humaines, elle relève aussi d'une thématique philosophique qui est celle de la diversitas qu'on retrouve chez les sceptiques du XVIe siècle et chez Montaigne notamment. Donc il y a...
Excusez-moi, juste pour préciser à nos auditeurs, nous avons évoqué hier le fait que c'est un argument qui constitue un trope sceptique, c'est-à-dire une méthode pour démolir un dogme. On dit non, mais ce dogme vaut ici, mais il ne vaut pas là-bas. Et c'est la diversité, ai-je bien compris, c'est un mode de démolition des dogmes.
Exactement. Oui, tout à fait. Ça permet d'atteindre un certain relativisme, de montrer que, comme vous le dites, une règle établie à un endroit, à un moment, ne vaut pas partout pour toute l'humanité. Et donc, c'est intéressant de voir comment ces descriptions des diverses pratiques sexuelles ne sont pas à côté, ne sont pas des amusements à côté d'un bloc philosophique et théorique. En réalité, ce que je trouve passionnant dans le courant libertin, c'est que les descriptions parfois un peu osées et qui peuvent prêter à sourire sont mises à contribution d'un bloc théorique et sceptique
redoutablement puissant.
Très efficace.
Vous en parlez très très bien, je trouve. Et on se dit décidément qu'on devrait mieux les connaître. Alors, pour ce Savinien de Cyrano de Bergerac du XVIIe siècle, je renvoie en particulier au livre de Jean-Charles Darmon, ici présent, Le songe libertin, Cyrano de Bergerac, d'un monde à l'autre, chez Klinksyk. C'est une édition de 2004, je présume qu'elle existe toujours. Nous allons maintenant évoquer La Fontaine. Et je vous propose tout simplement, puisque nous parlions du thème du retrait du monde, d'écouter la fable de La Fontaine, le rat qui s'est retiré du monde.
Les Levantins, en leur légende, disent qu'un certain rat, là des soins d'ici-bas, dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant de pieds et de dents qu'en peu de jours, il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage ? Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, aux dévots personnages des députés du peuple rat s'en vinrent demander quelque aumône légère. Ils allaient en terre étrangère chercher quelque secours contre le peuple rat. Ratopolis était bloqué. On les avait contraints de partir sans argent, attendu l'état indigent de la République attaquée. Ils demandaient fort peu, certains que le secours serait prêt dans 4 ou 5 jours. « Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister ? Que peut-il faire ? Que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci. J'espère qu'il aura de vous quelques soucis. » Ayant parlé de cette sorte, le nouveau saint ferma sa porte. Qui désignais-je, à votre avis ? Par ce rat si peu secourable ? Un moine ? Non, mais un dervis. Je suppose qu'un moine est toujours charitable.
C'était magnifiquement lu par Julien Guyomard, Le rat qui s'est retiré du monde de La Fontaine. Je vous écoute, Bruno Roche, pour un commentaire de cette fable.
Eh bien, il me semble que dans cette fable, nous avons une reprise du motif du retrait philosophique à la mode épicurienne, avec pas mal de références au chant de Lucrèce, le Suave Mari Magnu. Et donc, c'est une reprise, d'accord, mais une reprise problématique. Le texte, la date est importante, 1678, publication. À quoi peut-on faire référence dans ces années-là, étant donné que ce n'est pas une fable dont Ésope est le père ? Ici, c'est une fable du propre cru de La Fontaine.
Ésope, il faut juste... Pardon, moi je pense aux auditeurs, ils ont entendu Ésope, ils voudraient peut-être savoir... Ce que vous vouliez dire, je chante le héros dont Ésope est le père, ça ouvre les fables. Et Ésope, en vérité, il a écrit des contes, mais on ne sait pas très bien qui c'est cet Ésope. Il aurait vécu au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Oui, on ne sait pas énormément de choses, mais c'est le père des fables, c'est ça ?
Voilà, le père des fables. Et dans son premier recueil, celui de 1668, La Fontaine se place sous le patronage d'Ésope. Il versifie quelques fables avec des moralités. Voilà, mais il y a d'autres sources, évidemment. Et là, cette fable-là, pour le coup, c'est une fable de son cru. Alors, à quoi peut-on faire référence en 1678 ? Peut-être précisément au clergé régulier qui avait refusé ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire de faire un don gratuit, un don financier, pour justement alimenter les campagnes de Hollande, à l'époque menées par Louis XIV. Le clergé régulier avait répondu qu'il ne devait au roi que ses prières. Voilà. Donc, le rat qui s'est retiré du monde pourrait faire référence à cela. Mais plus profondément, on met l'épicurisme et le retrait philosophique sur la balance. Est-ce que c'est une vraie postulation philosophique, digne d'un sage, ou est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie là-dedans? Et on entend le
message. Parce que les moines... Il leur envoie une petite douceur à la fin qui est en fait qui masque la pique.
Oui, tout à fait.
C'est
tout
ça.
Tout à fait. Oui, oui. Et puis quand en 1678 on entend il n'en faut pas davantage, là on pense à Lucrèce. On pense à la modération des plaisirs. Il est assez facile d'être heureux en suivant son bonheur, en cherchant des biens naturels et nécessaires. Ce qui n'est pas le cas ici, parce que juste après, il n'en faut pas davantage, on dit qu'il devient gros et gras. Et en 78, quand on entend gros et gras, on ne peut penser qu'aux tartuffes. Donc, il y a une...
Le Tartuffe de Molière, 1669,
voilà.
Qui a fait l'objet d'une querelle majeure.
Oui.
D'ailleurs, si j'ai bien compris, lorsque La Fontaine a publié ses nouveaux contes, c'était donc avant les fables, en plein dans cette querelle, le texte, l'édition de ses nouveaux contes a été saisie. Donc c'est un moment délicat. Il faut user de dissimulation, vraiment, sinon on risque d'être saisi.
Absolument.
D'être mis au pilon, éventuellement.
Oui, et puisqu'on parle de la querelle du Tartuffe, c'est une querelle qui va durer quand même de longues années. Entre 1664, la première version du Tartuffe, et 1669.
Oui, c'est 64, on l'a perdu, non, celle de 64?
Alors, il y en a certains version. Qui l'ont réécrite.
Ah,
ouais. Oui, oui, on peut se procurer le texte. On la devine, en quelque sorte. Cela dit, donc, 64-69, et puis il y a l'année 67. 67, Molière revoit ses tablettes et propose une nouvelle version qui va s'appeler Panufre. Et elle va être immédiatement interdite également. Mmh. Or, en 1667, paraissent trois contes de La Fontaine particulièrement virulents contre le clergé. Et ils paraissent évidemment en édition clandestine, avec une fausse adresse à Cologne, à la Sphère. Alors les spécialistes se sont penchés sur la question. Cologne, est-ce que c'est en Allemagne? À la Sphère, quelle est cette maison d'édition? Finalement, peut-être que ça a été publié plutôt à Reims, mais en tout cas de manière clandestine. Ce qu'on peut comprendre comme un coup de main, comme un signe d'amitié à Molière, parce que dans cette série de trois contes, il y en a un, l'ermite, qui propose un portrait tout à fait ressemblant au Tartuffe. Là aussi, même hypocrisie face aux femmes qui devraient couvrir ce sein qu'on ne saurait voir, etc.
On va parler d'un autre, dans un instant, d'une autre fable, l'astrologue, qui nous permettra de nous demander qui exactement est visé. Mais juste avant, je voudrais dire un mot, puisque Ambre Pérez-Parfait, vous travaillez vraiment sur la sociabilité des libertins, leur position sociale et leur lien aux politiques. C'est quand même troublant. Jean de La Fontaine, il n'est pas au cœur des élites. Hein. Il vient d'une famille de la région des Hauts-de-France, dirait-on aujourd'hui. Son père était maître des eaux et forêts, sa mère fille d'un bourgeois marchand drapier. Il fait des études de droit à Paris, un mariage arrangé, il va beaucoup voir ailleurs, comme on dit. Et il se met au service d'un procureur Nicolas Fouquet, procureur général du Parlement de Paris, qui va être arrêté par Louis XIV, suspendu pour cause de fêtes fastueuses. Donc il n'est pas du tout au cœur de Louis XIV et de ses proches. Ensuite, au service de la duchesse d'Orléans, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est très bien vu à la cour. Beaucoup de problèmes, notamment avec Mademoiselle de Montpensier. Finalement, il finira à l'Académie française après ses fables. Mais franchement, c'est quelqu'un qui démarre mal dans le monde.
Je suis pas certaine qu'on puisse dire qu'il démarre mal dans le monde, étant donné qu'il est, je crois, issu d'une famille de marchands qui possédait un hôtel qu'il a pu revendre à une période de déboires
pécuniaires. Oui.
Donc, bon, tout dépend de ce qu'on entend mal démarrer oui, dans le monde. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les auteurs du XVIIe siècle, de manière générale, pas seulement les libertins, ont souvent des stratégies d'ascension sociale et qui fonctionnent parfois et qui ne fonctionnent pas d'autres fois. Donc peut-être qu'on peut considérer que La Fontaine n'a pas connu un total succès du point de vue de la trajectoire sociale pour sa part, tandis que d'autres libertins du début du siècle ont eu plus de chance. Il faut dire aussi que, comme vous l'avez dit en tout début d'émission, que La Fontaine est plus jeune d'une trentaine d'années, donc d'une génération, que Dénodet et de La Motte-Leveillé. Et il est possible que dans cette trentaine d'années-là, il se soit joué beaucoup de choses d'un point de vue social et politique, et qui concernent en premier lieu les cercles d'auteurs et de penseurs, puisque le contrôle de l'État sur les écrits est de plus en plus fort. Richelieu avait vraiment réussi à mettre en place une machine qui sera bien lancée à sa mort et qui continuera à agir pour contrôler les écrits, et donc du coup que l'État puisse dire qui réussit et qui ne réussit pas, et qui pourra vivre de ses écrits et qui ne pourra pas. Donc il est possible que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, il ait été plus difficile encore que dans la première moitié de vivre de sa plume.
Et c'est dans cette deuxième moitié du XVIIe siècle que La Fontaine devient le grand La Fontaine, académicien, mais c'était pas écrit d'avance, n'est-ce pas, Jean-Charles Darmon? Ou bien vous pensez que ce génie était tellement fort que même en ne servant pas tout à fait les bonnes personnes au début de sa vie par rapport à ceux qui sont à la mode de la cour, il devait réussir. C'est un immense écrivain.
Oui, alors effectivement, c'est très complexe le cas La Fontaine, parce que on peut dire qu'il a eu des protectrices, hein, et des protecteurs, et en même temps, il y avait toujours quelque chose de marginal et de raté. Même ses protecteurs, voilà. La duchesse de Bouillon, nièce de Mazarin, c'était une drôle de femme. Ça s'est mal terminé. Une fois, ensuite, la duchesse Douairière d'Orléans, alors il était au palais du Luxembourg, mais il restait un marginal, à bien des égards. Puis, ça a été Madame de la Sablière, prodigieuse, femme du monde, savante, élégante, mais qui finit aux incurables, hein, dans l'hôpital des incurables, dans une retraite religieuse, hein, sous la houlette de l'abbé de Rancé. Et puis, il finit ensuite, alors, dans la société des Vendômes. Alors les Vendômes, hein, si vous avez en tête les textes de Saint-Simon sur les Vendômes, c'était eux aussi des marginaux de la très haute aristocratie, mais tenus à l'écart. Et alors là, c'est de là que naît le libertinage fin de siècle, hein, celui qui va essaimer dans le 18e la société du Temple. Et donc La Fontaine, au moment où précisément où il va faire sa rétractation publique, donner des gages de non-libertinage, en même temps, par qui est-il protégé? Par la société des Vendômes. Et à qui adresse-t-il un grand poème sur l'amour conjugal, qui est rare dans les fables, à Vendôme, qui était connu pour son homosexualité et ses orgies.
Le rire, même bien
voilà.
Que
donc je crois que effectivement, il y a toujours quelque chose. Il est toujours un peu ailleurs, La Fontaine, hein, par rapport à d'autres comme Pélisson. Hein, Viala a analysé, hein, cette stratégie du caméléon de Pélisson. Il y a un certain mépris de La Fontaine, hein, pour ceux qui ont ces stratégies-là. Hein. Il est toujours un peu décalé, toujours un peu ailleurs. Et puis, il vit dans un temps très très long, le temps des anciens. C'est-à-dire que lui, il passe ses journées avec Platon. Il passe ses journées avec... Alors même quand il finit par lire le Nouveau Testament, Il dit, c'est un très beau livre, un fort beau livre. Il est très vieux, hein. Donc, vous voyez, il y a un décalage constant.
Oui, voilà. Bruno Roche, qui est spécialiste du rire des libertins, je le rappelle, voudrait dire quelque chose là.
Alors, sur La Fontaine, il me semble qu'il y a une image qui l'emblématise complètement, c'est la chambre du sublime, cette fameuse chambre du sublime. C'est une maquette qui a été offerte par sa tante au fils de Louis XIV et de la Montespan. Lorsqu'il avait quelques années, pour son anniversaire, une maquette avec des petits personnages de cire. Aujourd'hui, on joue au Lego, au Playmobil. À l'époque, le duc du Maine pouvait jouer avec ses personnages de cire. Et on voit représenter le duc du Maine en train de présenter l'un de ses poèmes à La Rochefoucauld. Mais il y a tous les grands écrivains autour de cette table, dans cette chambre du sublime. Mais La Fontaine est sur le seuil, toujours sur le seuil. Il est assez loin et ses racines sont cousin par alliance, qui lui fait signe d'approcher. Allez, viens, on t'accueille.
Alors, on va commenter peut-être à nouveau par vous, Jean-Charles Darmon, le rat qui s'est retiré du monde, mais je voudrais qu'on ajoute comme un complément la fable de La Fontaine, l'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Écoutez cette fable de La Fontaine.
Un astrologue, un jour, se laisse asseoir au fond d'un puits. On lui dit, pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête? Cette aventure en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes, il en est peu qui fort souvent ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin les mortels peuvent lire. Mais ce livre, qu'Homère et les siens ont chanté. Qu'est-ce que le hasard parmi l'Antiquité et parmi nous, la Providence? Or, du hasard, il n'est point de science. S'il en était, on aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toute chose très incertaine. Quant aux volontés souveraines de celui qui fait tout et rien qu'avec dessein, qui les sait que lui seul, comment lire en son sein? Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles? À quelle utilité? Pour exercer l'esprit de ceux qui de la sphère et du globe ont écrit? Pour nous faire éviter des maux inévitables? Nous rendre dans les biens de plaisirs incapables? Et causant du dégoût pour ces biens prévenus, les convertir en maux devant qu'ils soient venus? Cette erreur, ou plutôt ces crimes de le croire, le firmament se meut. Les astres font leur cours, le soleil nous luit tous les jours sa clarté succède à l'ombre noire, sans que nous en puissions autre chose inférer que la nécessité de luire et d'éclairer, d'amener les saisons, de mûrir les semences, de verser sur les corps certaines influences. Du reste, en quoi répond au sort toujours divers ce train toujours égal dont marche l'univers? Charlatans, faiseurs d'horoscopes, quittez les cours des princes de l'Europe, emmenez avec vous les souffleurs tout d'un temps, vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Je m'emporte un peu trop. Revenons à l'histoire de ce spéculateur qui fut contraint de boire. Outre la vanité de son art mensonger, c'est l'image de ceux qui baillent aux chimères, cependant qu'ils sont en danger. Soit pour eux, soit pour leurs affaires.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
L'astrologue de Jean de La Fontaine tombe dans un puits à force de pratiquer sa science stupide. C'est ce que j'ai compris, mais je suis un peu surprise. Je croyais que les libertins aimait bien les sciences occultes. Il y a peut-être plusieurs niveaux d'analyse. Je vous écoute, Jean-Charles Darmon.
Oui. Alors, effectivement, il peut y avoir un intérêt très fort pour des thèmes venant de ce qu'on a appelé le naturalisme magique. Mais Gassendi en a instruit une critique impitoyable.
Un mot sur Gassendi, s'il vous plaît.
très grand philosophe, considéré comme au moins l'égal de Descartes, hein, au moment où La Fontaine écrit.
Et opposé
et même, à Descartes. Et même plus tard. Toute une part de son œuvre a consisté à réhabiliter la philosophie d'Épicure, à la réinterpréter, à la restituer dans toute son amplitude. Mais une grosse partie de son œuvre est une œuvre aussi qui lui est propre, hein, ce qu'il appelle sa propre philosophie.
Et puis un immense scientifique. Hein.
Comment ?
Un immense scientifique. Enfin,
un immense scientifique, correspondant de Galilée, ouais, professeur de mathématiques au Collège de France, etc., etc. Et même Coiré, qui lui est pas très favorable, très souvent, il dit il n'existe pas de loi Gassendi, je ne suis pas sûr que ce soit un grand argument, dit il a donné à la science moderne l'ontologie dont elle avait besoin.
Est-il libertin, Gassendi ?
Alors, ça c'est un vaste sujet. Je ne pense pas que Gassendi soit totalement inconséquent. En étant chrétien d'un côté et en défendant certaines formes d'épicurisme de l'autre. Il y avait une tradition de l'épicurisme chrétien. Hein. Mmh. Dieu a donné les atomes, et ensuite les atomes, avec leurs propriétés, agissent selon des lois, hein, où Dieu n'intervient plus. Et d'autre part, il a donné le plaisir. Ah. Et l'homme fait du plaisir différents types d'usages qui lui sont plus ou moins nocifs. Ou plus ou moins salutaire.
Alors, je voudrais qu'on revienne à La Fontaine. Gassendi, si j'ai bien compris, a beaucoup marqué La Fontaine. On dit aussi qu'il a marqué Molière. On
laisse Molière alors de côté.
Alors, en quoi ce texte sur l'astrologue qui tombe dans un puits,
Alors, qui rappelle un peu les Gassendistes, c'est-à-dire pas simplement Gassendi lui-même, qui avait eu maille à partir avec Jean-Baptiste Morin, l'astrologue du roi, mais François Bernier, qui était le grand ami, un commensal de La Fontaine, très intéressant philosophe et grand voyageur, qui rentrait des pays du Grand Mogol au moment où La Fontaine est en train d'écrire le second recueil des fables, hein, les fables du second recueil, avait écrit un grand nombre de textes contre l'astrologie judiciaire. Hein, et alors, à cette fable que vous venez de lire, il faudrait mettre en parallèle, la fable L'Horoscope.
Tout à fait.
Hein, qui est une fable extrêmement intéressante, éminemment philosophique, puisqu'elle se termine par une évocation des atomes et des vides sans fin, c'est-à-dire une mobilisation de la pensée matérialiste épicurienne, hein, contre les superstitions. Hein,
donc c'est un homme, Jean de La Fontaine, qui aime la science. Je veux dire, chez les libertins, c'est parfois plus complexe. Ils aiment aussi la magie. Lui, vraiment, il défend la science.
Moi, je me suis toujours refusé à assigner une identité philosophique à La Fontaine. Fut-elle aussi large et vague, hein, que celle de Libertin. Mais il a dû composer avec plusieurs risques, plusieurs figures qui étaient associées à des formes de libertinage. Et ce qui transparaît derrière l'astrologie judiciaire, c'est plus largement une conception extrêmement pessimiste, hein, de la nature humaine, hein, de l'homme comme sans cesse victime de l'imagination. Hein, l'homme incapable d'un gouvernement rationnel de soi. Hein, ce qui le rapproche aussi de certains moralistes qu'on connaît bien. L'homme gouverné par des fictions en permanence, hein, non seulement par son imagination, mais par des fictions, avec une analyse post-machiavélienne, hein, chez La Fontaine, des fondements fictifs du pouvoir, hein, et comment le pouvoir agit par des fictions. En générant de la violence, les animaux malades de la peste, hein, un texte imprégné de Lucrèce. Hein. Et donc, il me semble que d'un côté, il y a des modèles philosophiques d'inspiration proches du libertinage de style néo-épicurien, avec l'éloge du retrait philosophique. Hein, au rat qui s'est retiré du monde, il faut faire pendant le songe d'un habitant du Mogol. Où là, on a l'éloge d'un plaisir aussi pur qu'infini, sur détermination épicurienne. Hein, plaisir pur pour Épicure, vaut un plaisir infini. Hein ? Et qui s'achève par la phrase suivante, quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans soin et mourrai sans remords. Dans un siècle très chrétien, hein, mourrai sans remords, hein, quand on parle de ses accointances avec les jansénistes, avec Port-Royal, mais est-ce qu'un janséniste pourrait dire « je mourrai sans remords » hein, la mort comme façon de parler des plaisirs purs, comme pure limite des plaisirs purs.
Alors si vous, on arrive hélas un peu presque au bout de l'émission, nous n'aurons pas le temps de parler du livre posthume La Fontaine par Michel Serres, que vous avez mis en page, mais il me semble, je laisse cela aux auditeurs qui voudraient voir le livre, que d'autres thématiques encore intéressent beaucoup Michel Serres, notamment la proximité entre les hommes et les animaux. Mais je voudrais laisser la parole à Bruno Roche, qui connaît très bien La Fontaine aussi, qui sera donc notre dernier mot aujourd'hui.
J'aimerais insister sur la figure de Bernier, puisqu'on a évoqué son nom, François Bernier. C'est peut-être celui qui fait le trait d'union entre la grande génération de libertins érudits, puisqu'il accompagne Gassendi sur son lit de mort. Gassendi meurt dans les bras de Bernier, et quelques 20 ans plus tard, c'est aussi celui qui accompagne Lamothe-Levaillé. La dernière question de Lamothe-Levaillé, qu'est-ce qui se passe au royaume du Grand Mogol ? Et Bernier était censé de répondre. Et puisqu'on a cité la fable de l'horoscope et la phrase de l'astrologue qui s'est laissé tomber dans un puits, il faut remarquer que Bernier a écrit un abrégé de la philosophie de Monsieur Gassendi, un abrégé en 8 tomes, et ça représente quelques milliers de pages quand même. Hein, pour un abrégé, c'est assez long. Or, il se trouve que les phrases de La Fontaine que nous lisons dans ces fables sont directement tirées de l'abrégé de la philosophie de Monsieur de Gassendi.
Alors, juste, on va quand même finir sur ce point, on a encore un peu de temps. La mort, vous avez dit à quel point il y avait Jean-Charles Darmon de la sagesse épicurienne dans le rapport à la mort, si je puis dire, jusqu'au dernier moment. Parce que dans sa dernière lettre à son ami François de Maucroix, le 10 février 1695, il me semble quand même qu'il est inquiet. Il y a de la terreur à la fin, alors que la mort s'approche.
Alors,
chez La Fontaine.
Bien sûr, mais alors,
ce sera
c'est
ça,
compliqué
le dernier
parce
mot.
Que l'inquiétude est souvent thématisée par La Fontaine. Hein. Dans le texte de Psyché que vous avez lu, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Mmh. C'est-à-dire que la mélancolie et l'inquiétude font partie véritablement de ce qu'il est, hein, de sa manière d'être, et l'inquiétude aussi sous sa forme la plus triviale, l'ennui. Hein, on dit de lui, il s'ennuie partout. Hein, La Fontaine est sans arrêt face à l'ennui. Hein, face à l'ennui. Et bien sûr, hein, il a pu trouver... Il a pu avoir, et Serres d'ailleurs insiste hein, sur cet aspect-là, dans l'enfer, ce qu'il appelle l'enfer des relations, hein, Michel Serres, dont les fables sont porteuses. Hein, relations de prédation,
oui.
Relations de parasitisme, relations d'échange mais mal équilibrées, relations de contrat mais de contrat illusoire. Hein, les contrats sociaux, les pactes dans les fables se terminent toujours mal. Relations hors contrat, si j'ose dire, comme l'amitié et l'amour. Hein. Il y a toute une gamme, toute une hiérarchie de relations humaines. Et effectivement, on peut considérer que certaines fables semblent indiquer l'amour de Dieu ou un certain type d'amour en dehors de cet enfer des relations humaines, un peu... apparaître au loin hein, comme une possibilité. Ouais, mais en même temps, cela se dérobe sans cesse hein, et on retombe. Il y a des retombées constantes hein, dans ce type d'enfer des relations humaines.
Eh bien, je vous remercie très vivement tous les trois, Ambre Pérez-Parfait, Bruno Roche, Jean-Charles Darmon. Vous nous avez beaucoup éclairé sur les libertins du XVIIe et la place de Jean de La Fontaine dans cet univers philosophico-littéraire. Les références de vos travaux, qui sont très nombreuses, sont précisées sur notre site. Et je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au retour du grand récit. Voici le pourquoi du comment.
Comment reconstruire un grand récit ? Chacun sait ce qu'est un récit. Un récit, c'est l'histoire de quelqu'un, d'un personnage qu'on tient pour individuel et qui traverse des aventures. Un récit, c'est une intrigue, comme disait Paul Ricoeur. C'est quelque chose qui a un début, un milieu et une fin. Vous posez l'existence d'un sujet, d'une personne, nous nous identifions tous plus ou moins à lui ou à elle, il lui arrive quelque chose et à la fin, il y a un dénouement, souvent pour le meilleur, dans les fables, dans les contes qu'on raconte aux enfants. Pour les endormir, parfois pour le pire dans l'histoire réelle, mais au moins on peut la raconter. Raconter l'histoire, c'est la faire exister. C'est faire exister peut-être aussi la personne qui est vivante. Mais ce qu'on appelle un grand récit, c'est un récit qui se construirait à une autre échelle, à l'échelle au fond de toute l'humanité et peut-être même de tout l'univers. Le grand récit, c'est l'explication métaphysique de l'ensemble des choses. En ce sens, finalement, il faut donner ce sens très fort à l'adjectif grand. Dans grand récit, grand, ça n'est pas juste un récit un peu plus grand qu'un autre, un peu plus long, un grand roman, Guerre et Paix, Les Mille et Une Nuits, qui sont composés de mille et un récits pour permettre au sultan de se distraire et de ne pas exécuter la courtisane emprisonnée. Non, un grand récit, c'est vraiment l'explication totale, l'explication de tout. C'est pourquoi, comme le montrait Jean-François Lyotard dans ce livre de 1979, La condition postmoderne, peut-être vivons-nous depuis une cinquantaine d'années, l'écroulement des grands récits. Jean-François Lyotard disait dès le début que la science est en conflit avec les récits. La science ne nous donne pas de grand récit global de l'ensemble de l'univers, ou en tout cas où nous puissions situer l'humanité avec une destination, quelque chose comme une fin espérée, morale ou immorale. La science, c'est l'éclatement des faits, ce sont des vérités locales dans lesquelles l'aventure humaine ne semble pas pouvoir se situer. Jean-François Lyotard le disait ainsi dans le langage des années 70, la fonction narrative perd ses foncteurs. Le grand héros, les grands périls, les grands périples et le grand but. Elle se disperse en nuages d'éléments langagiers, narratifs. Chacun de nous vit au carrefour de beaucoup de celles-ci. Les grands récits sont en train de s'écrouler. Mais le besoin de grands récits, le besoin de grands récits vient justement aujourd'hui, peut-être non plus en contradiction avec la science, mais en s'appuyant sur la science. Il faut reconstruire un grand récit, sinon ce sont des grands récits qui vont s'imposer tout seuls sous le signe des grandes catastrophes contemporaines qui de fait affectent toute l'humanité et qui nous replacent dans l'histoire de l'univers. Les historiens montrent que l'histoire humaine se reconnecte à l'histoire de la nature, mais sous le signe de la catastrophe, de l'épuisement de la planète. Alors nous avons besoin de grands récits fondés, communs et qui ne conduisent pas à des mythologies fondées sur la guerre d'un côté ou à une science qui renonce à raconter notre histoire de l'autre. Il faut donc un grand récit fondé sur la science. Oui, qu'est-ce que la planète ? Pourquoi y a-t-il des dangers communs ? Eh bien, ce sont les sciences qui nous le disent. La planète sait ce que raconte le rapport du GIEC. Ce sont les catastrophes, ce sont les mesures scientifiques des risques et la manière de lutter. Oui, le grand récit, c'est « Il était une fois l'humanité ». Elle prend conscience de ses dangers sur la planète, elle lutte contre eux et peut-être y aura-t-il une fin heureuse ou malheureuse. En tout cas, nous avons un grand récit commun qui n'est pas mythologique, qui n'est pas non plus seulement scientifique, il est aussi moral et politique. Avec le diagnostic des dangers, s'impose un grand récit commun de l'humanité. Il faut le raconter pour ne pas sombrer dans la guerre de tous contre tous.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Greg Wallon. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet, mais je remercie aussi vivement Anna Feulpin pour son aide sur Savinien, Cyrano de Bergerac. Merci à tout le reste de l'équipe, Carla Michel, Nassim El Kabli et Corinne Amar. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.